Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 18 février 2025, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. L'ONU accuse le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu dans l'est de la RDC. Au Soudan, plus de 200 personnes ont été tuées en 3 jours dans des attaques menées par les forces de soutien rapide. Le pape François est hospitalisé pour une infection respiratoire. Ses engagements prévus ce week-end ont été annulés. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi à Riyad que Washington cherchait une fin juste et durable au conflit en Ukraine. Et dans notre partie magazine, les autorités congolaises confirment l'entrée de l'armée ougandaise à Bunia en Ituri. Elle rassure que c'est dans le cadre des opérations conjointes avec l'armée congolaise en vue de traquer les groupes armés opérant dans cette localité.
Il y a une psychose qui a régné, il est resté là 3 jours lorsqu'on a vu que l'armée congolaise est en cours de route pour Bunia.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'ONU accuse le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu après avoir pris le contrôle de la ville de l'Est de la RDC. Pendant ce temps, le Burundi, qui combat aux côtés de l'armée congolaise contre le groupe armé, annonce le retrait de ses soldats. Alexandrine Holognon.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme confirme des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Selon la porte-parole de l'agence, Ravina Shamdassani, 3 garçons ont été tués lors d'une altercation avec des membres du M23. Nous demandons au Rwanda et au M23 de veiller à ce que les droits humains et le droit humanitaire international soient respectés, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse. Par ailleurs, le Burundi annonce le retrait de ses forces de l'Est du Congo, où elles se battaient contre les rebelles du M23, ce qui porte un nouveau coup à l'armée congolaise, qui s'efforce d'arrêter l'avancée des rebelles. Ce mardi, les bateaux ont repris la navigation sur le lac Kivu, nerf des échanges commerciaux entre Goma et Bukavu. Les activités reprennent timidement dans la ville depuis lundi, malgré le pillage de boutiques et d'entrepôts.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a fait état mardi de combats meurtriers qui ont tué des civils et blessé un casque bleu dans le nord du pays. Des combats ont éclaté les 14 et 15 février entre l'armée sud-soudanaise et des jeunes armées à Nassir, dans l'état du Haut-Nil, dans le nord, bordant le Soudan, a affirmé mardi la mission des Nations Unies au Soudan du Sud dans un communiqué. Le texte n'identifie pas clairement les individus qui se sont affrontés à l'armée et ne donne pas non plus de détails sur le nombre de victimes, mais affirme qu'un casque bleu en patrouille a été blessé. Plus de 200 personnes ont été tuées en 3 jours dans des attaques menées par les forces de soutien rapide FSR contre 2 villages au sud de Khartoum. Selon un groupe d'avocats, le ministère soudanais des Affaires étrangères a fait état d'un bilan 2 fois plus important. Les détails avec Nani Talani.
Entre samedi et lundi, les forces de soutien rapide ont attaqué les villages d'Al-Kadaris et d'Al-Kelwat dans l'état du Nil blanc à 90 km au sud de Khartoum, tuant des centaines de personnes, dont des bébés. Ils ont mené des exécutions, enlèvements, disparitions forcées et pillages de biens contre des civils non armés, selon un collectif d'avocats qui qualifie l'attaque de génocide. Le groupe précise que les attaques ont fait des centaines de blessés et de disparus et que certains habitants ont été abattus et se sont noyés en tentant de fuir à travers le Nil. Selon le ministère des Affaires étrangères, ces attaques menées par les FSR ont fait 433 morts dont des bébés, dénonçant un horrible massacre. Elles ont aussi provoqué des centaines de blessés, de disparus et de milliers de déplacés. L'ONU souligne que les attaques continues contre les civils révèlent l'échec de l'armée soudanaise et des FSR à respecter le droit humanitaire international. Elle dénonce l'impunité des agresseurs et appelle à un élargissement de l'embargo sur les armes au Soudan.
La visite effectuée lundi par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, au Sahara occidental, territoire au statut non défini à l'ONU, est d'une gravité particulière et est condamnable à plus d'un titre, a dénoncé mardi le ministère algérien des Affaires étrangères. Lundi, Mme Dati avait qualifié d'historique sa visite, la première d'un ministre français dans les provinces du Sud, en utilisant la terminologie employée par le Maroc pour désigner ce territoire à son arrivée à Laayoune. pour lancer un centre culturel français. Le Sahara occidental, vaste zone désertique, est une ex-colonie espagnole contrôlée à environ 80% par le Maroc, mais revendiquée par les indépendantistes du Front Polisario, en conflit depuis 50 ans avec Rabat et soutenue par l'Algérie. L'Égypte a annoncé mardi le report au 4 mars du sommet extraordinaire de la Ligue arabe sur la bande de Gaza qui devait se tenir au Caire la semaine prochaine, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce sommet avait été convoqué en réponse à la proposition du président américain Donald Trump de placer la bande de Gaza, ravagée par la guerre, sous contrôle américain et de déplacer sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Vendredi, l'Arabie saoudite doit accueillir les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie, du Qatar et des Émirats arabes unis lors d'un sommet pour présenter leurs propres propositions de reconstruction de Gaza, tout en garantissant que les Palestiniens resteront sur leur territoire.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François, 88 ans, souffre d'une pneumonie bilatérale et continue d'afficher un tableau clinique complexe, a annoncé ce mardi le Vatican dans un nouveau bulletin médical au cinquième jour de son hospitalisation. Le point avec Eric Maniakis.
Le scanner thoracique que le Saint-Père a subi cet après-midi a démontré l'apparition d'une pneumonie bilatérale qui a nécessité un traitement médicamenteux supplémentaire. Le pape François est néanmoins de bonne humeur, a indiqué le Vatican dans ce communiqué mardi soir. Lors d'un point presse ce mardi à la mi-journée, le porte-parole du Vatican a déclaré que la situation du souverain pontife argentin était stable et remercié les personnes lui envoyant des prières ou des marques d'affection. Le Vatican avait aussi annoncé l'annulation des engagements du pape François le week-end. En raison de l'état de santé du Saint-Père, l'audience jubilaire du samedi 22 février est annulée et François ne sera pas en mesure de présider la messe de dimanche, a annoncé le Saint-Siège. Son hospitalisation, la quatrième en moins de 4 ans, a relancé les interrogations sur sa santé fragile, d'autant qu'elle intervient au début de l'année jubilaire de l'Église catholique, marquée par une longue liste d'événements dont beaucoup sont présidés par le pape. Depuis son élection en 2013, le pape a toujours laissé ouverte la possibilité de renoncer à sa charge si sa santé l'empêchait d'exercer ses fonctions à l'image de son prédécesseur Benoît XVI. « Je continue », a-t-il assuré dans une autobiographie publiée en janvier. « La réalité est tout simplement que je suis vieux ».
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré mardi à Riyad, après sa rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov, que Washington cherchait une fin juste et durable au conflit en Ukraine, ouvrant à d'extraordinaires possibilités pour un partenariat russo-américain. Les précisions de John Lindon.
À l'issue de pourparlers américano-russes, les premiers au niveau des chefs de la diplomatie depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, le chef de la diplomatie américaine a affirmé que toutes les parties concernées devront être présentes à la table des négociations sur l'Ukraine, y compris l'Union européenne. Il y a d'autres parties qui ont imposé des sanctions à la Russie. L'Union européenne devra être à la table à un moment donné, car elle en a pris également, a-t-il dit à la presse. Il y a eu un grand intérêt pour lever les barrières artificielles qui entravent le développement de la coopération économique entre la Russie et les États-Unis, a de son côté déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de la rencontre. J'ai des raisons de penser que les Américains ont commencé à mieux comprendre notre position, a-t-il ajouté, jugeant leur conversation utile. Nous ne nous sommes pas contentés de nous écouter, nous nous sommes entendus, a-t-il dit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a souligné que l'Ukraine ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle, s'est entretenu de son côté à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont il espère le soutien. Les Européens, dont les principaux dirigeants se sont réunis en urgence lundi à Paris, réclament, eux, de pouvoir faire équipe avec les États-Unis pour une paix juste et durable en Ukraine, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X, après une rencontre avec l'envoyé spécial du président Donald Trump sur l'Ukraine, Kate Kellogg. Personne n'est mis à l'écart, a assuré Marco Rubio à Riyad.
Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines avec à bord 76 passagers et 4 membres d'équipage a connu un accident à l'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport canadien de Toronto. L'appareil a terminé sa course immobilisé sur le dos sur une piste recouverte d'une fine couche de neige. 17 personnes ont été blessées, dont 3 dans un état grave. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Les pluies en Côte d'Ivoire ravivent les espoirs des producteurs de cacao pour une récolte intermédiaire saine. Les agriculteurs ont déclaré qu'ils étaient maintenant satisfaits car l'humidité devrait aider les jeunes gousses à survivre. Si les pluies se maintiennent dès mars, la récolte pourrait être aussi abondante que l'an dernier. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao, principal ingrédient du chocolat. Les autorités ghanéennes ainsi que des ONG locales tentent de lutter contre le braconnage de pangolins, un mammifère à la survie menacée dont la viande et les écailles font l'objet d'un trafic international massif. Selon l'Agence d'investigation environnementale, le Ghana exporte illégalement entre 5 et 10 tonnes d'écailles de pangolins chaque année. Les dirigeants africains réunis ce week-end dans le cadre du sommet de l'Union africaine ont approuvé la création du mécanisme africain de stabilité financière, un fonds de 20 milliards de dollars visant à prévenir les crises de la dette. Hébergé par la Banque africaine de développement, ce fonds obtiendra sa propre notation de crédit pour emprunter sur les marchés internationaux. L'adhésion sera volontaire avec une participation limitée des membres non africains.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Ligue des champions, les Monégasques seront des guerriers contre Benfica, assure leur coach.
Monaco joue ce mardi soir à Lisbonne, un barrage retour de Ligue des champions. Après avoir perdu le match aller contre Benfica 1-0, ce sera un grand match et j'espère que nous pourrons terminer à 11 contre 11, a déclaré le coach Monégasque. L'AS Milan doit remonter un but face au Feyenoord Rotterdam à 18h45. Le Bayern Munich accueillera Celtic Glasgow avec un avantage de 2-1, tandis que l'Atalanta Bergame jouera contre Club Bruges en déficit de 1-2.
En Espagne, le comité arbitral condamne les menaces contre l'arbitrage d'Osasuna Real Madrid.
Les arbitres espagnols ont condamné lundi dans un communiqué les menaces et les insultes visant José Luis Munuera Montero, arbitre du match Osasuna-Real Madrid, qui s'est terminé par un but partout, marqué par plusieurs décisions polémiques, dont l'expulsion directe de l'anglais Jude Bellingham et un pénalty provoqué par Eduardo Camavinga. Il est publiquement accusé par la chaîne de télévision du club madrilène, qui multiplie les tentatives de pression avant et après chaque rencontre de championnat, d'avoir oublié plusieurs pénaltys en faveur du Real et d'avoir exclu à tort l'anglais Jude Bellingham pour ce qu'il a considéré comme une insulte le visant. Le FC Barcelone a profité des nuls de ses deux rivaux, le Real Madrid et l'Atlético, pour reprendre la première place du championnat espagnol et enflammer la course au titre.
Tennis, Djokovic critique les incohérences du système antidopage.
Novak Djokovic a exhorté lundi les instances du tennis mondial à revoir le système antidopage en ciblant les incohérences dans le traitement des grandes stars Jannik Sinner et Iga Swiatek et celui des joueurs moins bien classés. L'association des joueurs de tennis professionnels, un syndicat de joueurs cofondé par le Serbe en 2021, avait déjà dénoncé sur X un biais inacceptable dans les décisions des autorités antidopage.
Jeux Olympiques 2026, près de 300 000 billets vendus, assure le comité d'organisation.
Les organisateurs des Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina d'Ampezzo, entre le 6 et 22 février 2026, assurent avoir vendu près de 300 000 billets pour leurs épreuves sur un total d'1,6 million, ont-ils indiqué ce mardi. Environ 25% de ces billets ont été vendus en Italie, tandis que les deux pays étrangers qui occupent pour l'instant les deux premières positions après l'Italie sont l'Allemagne et les États-Unis, a expliqué le patron de Milano Cortina 2026 lors d'un point de presse à Rome.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les autorités congolaises confirment l'entrée de l'armée ougandaise à Bunia, en Ituri, sur le sol de la RDC. Mais elles rassurent que c'est dans le cadre des opérations conjointes avec l'armée congolaise que des contingents supplémentaires ougandais sont envoyés en vue de traquer les groupes armés opérant dans cette localité. L'entrée des Ougandais avait semé la panique dans la population. Eddy Sango a joint à Bunia le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, Moïse Bagoum.
Oui, effectivement, l'armée ougandaise là depuis hier, et même aujourd'hui, la seconde équipe vient de fouler la ville de Bunia. Et c'est en concertation, c'est une opération conjointe avec les FARDC, ok. Il y a un contrat des opérations contre les ennemis de la paix, donc les mouvements insurrectionnels, les consorts, les rebelles de ça et là. Donc, c'est de manière pacifique et puis... On s'assure que les choses sont en train d'être opérées ici, à l'Ituri plus particulièrement. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais seulement la population était... Il y a une psychose qui a régné, il y a de cela trois jours, lorsqu'on a appris que le IPDF, l'armée ougandaise, est en cours de route pour Bunia, et surtout qu'il y avait avant cela une communauté. Le poste en question des réseaux sociaux n'était que des montages, il n'y avait pas une vérité là-dessus. Ce sont des personnes mal intentionnées qui ont eu à monter ces postes sur les réseaux sociaux, qui a fait paniquer toute la population sous prétexte que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, à la personne de Muhoozi, est en train de demander à tous les militaires de déposer les armes. Moi, je pense que c'était une fausse information. La réalité est que c'est par consensus que les UPDF, l'armée ougandaise, est en train d'arriver à Bunia. Et il n'y a pas une quelconque politique là-dessus. Donc, c'est dans le sens d'une opération conjointe contre les ennemis de la paix dans la province de l'Ituri. Donc, c'est un contrat de la République de l'Ouganda et celle du Congo. Donc, l'information qui a été véhiculée dans les réseaux sociaux est une fausse information.
Qui du côté congolais a donné ces précisions dont vous parlez?
Ce qui concerne l'information des chefs d'état-major de l'armée ougandaise, s'est prétendu communiquer là. Ça a été démenti même par les porte-parole de la FARDC province de l'Ituri à la personne de Gilles Ngongo pour son communiqué d'hier. Nous avons suivi ça. Il a dit que ça a été une fausse information. Et c'est comme ça que nous vous rassurons également parce que si c'était le cas, l'armée congolaise ne pouvait pas être partie. Le gouvernement provincial de la province de l'Ituri ne pouvait pas se retrouver ensemble avec l'armée ougandaise, surtout que c'était à partir de Boga. Boga, c'est une chefferie. La chefferie de Boga, c'est une chefferie qui est à la frontière avec l'Ouganda. Et l'armée congolaise et l'équipe du gouvernement provincial étaient allés accueillir l'équipe de l'armée ougandaise qui devrait être là. Et c'est comme ça que l'équipe était là hier, ensemble avec le gouvernement provincial, accompagné de l'armée, bien sûr, congolaise, notre armée royaliste.
Moïse Bagouma, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, du joint à Bunia. Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM. Depuis juin 2024, date à laquelle une série de manifestations de masse a eu lieu au Kenya, 82 cas de disparition forcée présumée ont été enregistrés selon la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. L'identité des auteurs de ces enlèvements n'a pas encore été déterminée. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, a parlé à deux frères qui disent avoir été enlevés pendant 32 jours. Récit Eric Manilakiza.
C'est ici dans le quartier de Kitengela Town, à environ une heure du centre de Nairobi, qu'Aslam Longton et son frère Jamil disent avoir été enlevés.
Au premier virage, une Toyota Vitz était garée et avait ouvert toutes les portières. Je n'avais donc pas pu passer. J'ai fait marche arrière et je suis arrivé à cet endroit. Lorsque je suis entré, une Subaru est venue me bloquer ici et une Toyota Axio m'a bloqué derrière.
Les frères affirment avoir été approchés par des hommes lourdement armés qu'ils ont pris pour des policiers qui leur ont ordonné
d'éteindre le moteur de leur voiture.
Ils ont ouvert la voiture, ils m'ont enlevé du volant et m'ont amené très vite dans la Subaru.
Jamil Longton affirme qu'il n'était pas censé être amené ce jour-là, mais lorsqu'il a insisté auprès des policiers, leur suggérant même d'appeler le poste de police du quartier, ils ont refusé de se présenter.
Je leur ai demandé qui vous étiez et pourquoi vous ameniez mon frère. Je leur ai dit que j'allais appeler l'officier commandant le poste de police de Kitengela pour lui demander s'il était au courant de ce que vous faisiez. Lorsque j'ai tenté d'appeler l'OCS, ils ont confisqué mon téléphone. J'ai été giflé, mon téléphone a été éteint et j'ai été embarqué dans la Subaru.
Mes frères disent avoir été menottés, avoir eu les yeux bandés, avoir été amenés dans un endroit et avoir été détenus pendant 32 jours. Amnesty International et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya confirment les récits des deux hommes et affirment qu'ils sont similaires au traitement réservé à d'autres personnes enlevées.
Premièrement, ils nous ont dit qu'on leur avait refusé de la nourriture. Ils ont été menottés pendant des jours. On les a déshabillés et on les a fait s'allonger sur des sols en béton pendant des jours.
Concrete flaws. Aslam affirme qu'il a été enlevé en raison de sa participation aux manifestations nationales de la Gen Z, dirigée par des jeunes l'année dernière contre un projet de loi qui aurait augmenté les impôts. Ces manifestations se sont transformées en un appel à la fin de la corruption et à la démission du président. Le projet de loi a finalement été retiré. Les groupes de défense des droits ont accusé la police kényane d'avoir fait un usage excessif de la force contre les manifestants et dans certains cas d'avoir enlevé des détracteurs du gouvernement. La police nie ces allégations. Elle a aussi déclaré qu'elle disposait de preuves crédibles que des gangs criminels avaient infiltré les manifestations et prévoyaient d'en tirer profit. En décembre, à la suite de nouvelles manifestations à Nairobi pour demander à la police de retrouver les personnes disparues, le président William Ruto a condamné la recrudescence des disparitions.
Tout acte criminel doit faire l'objet d'une enquête, qu'elle soit le fait de citoyens, de criminels ou de la police. Elle doit faire l'objet d'une enquête et nous devons faire toute la lumière sur les activités criminelles au Kenya.
Ne demande de commentaires auprès du service national de police sont restés sans réponse.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Les dirigeants européens ont tenu une réunion de crise hier à Paris pour discuter de l'Ukraine et de la sécurité européenne, comme le rapporte Henry Ridgwell. Cette réunion fait suite à une avalanche d'interventions diplomatiques de la part de Washington qui ont semé le doute quant à l'engagement des États-Unis envers l'alliance transatlantique, fondement de la sécurité européenne. Récit Lionel Nanila Gaïma.
Quelques jours de diplomatie ont ébranlé les fondements de la sécurité européenne. Le président français Emmanuel Macron a accueilli lundi à Paris plusieurs dirigeants européens pour des discussions sur la crise, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer.
We Europeans will have to do more.
Nous, Européens, devrons faire plus. La question du partage du fardeau n'est pas nouvelle, mais elle est désormais pressante. Les Européens devront faire un pas en avant, à la fois en termes de dépenses et de capacités que nous fournissons.
Starmer a déclaré qu'il était prêt à engager les forces britanniques sur le terrain en Ukraine si un accord de paix durable était conclu.
Mais il doit y avoir un soutien américain car une garantie de sécurité américaine est le seul moyen de dissuader efficacement la Russie d'attaquer à nouveau l'Ukraine.
Une série de changements politiques de la part de Washington a transformé les calculs géopolitiques de l'Europe. La semaine dernière, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a déclaré aux alliés de l'OTAN que l'Europe devait fournir la majeure partie de l'aide à l'Ukraine dans sa lutte contre les envahisseurs russes, ajoutant que les États-Unis n'étaient plus, je cite, principalement axés sur la sécurité de l'Europe. Ensuite, le président Donald Trump s'est entretenu avec son homologue russe, Vladimir Poutine, mettant ainsi fin à l'isolement de Moscou. Daniela Schwarz travaille pour la fondation Bertelsmann Stiftung en Allemagne.
Nous assistons à des changements tectoniques dans les structures de l'ordre et dans le positionnement des grandes puissances.
Les dirigeants européens doivent prendre des décisions importantes selon un autre analyste. Armida Van Rij, responsable du programme Europe à Chapman House.
Il ne s'agit pas seulement de maintenir, mais de renforcer le soutien à l'Ukraine, étant donné qu'il est très clair que les États-Unis ne joueront plus un rôle majeur, comme ils l'ont fait sous la présidence de Joe Biden, mais aussi pour la défense et la sécurité européenne, à moyen et à long terme. À quoi cela va ressembler? Les Européens se posent donc d'énormes questions.
Seuls 23 des 32 membres de l'OTAN ont atteint l'objectif de l'alliance consistant à consacrer au moins 2% du produit intérieur brut à la défense, sans parler des 5% exigés par Donald Trump.
Cela va être très difficile pour de nombreux Européens qui opèrent dans un espace fiscalement très contraignant.
Les critiques américaines vont au-delà des questions de défense. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue le week-end dernier, le vice-président américain J.D. Vance a critiqué les migrations massives et la perception d'une atteinte à la liberté d'expression en Europe.
La menace qui me préoccupe le plus vis-à-vis de l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, les reculs de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées par les États-Unis d'Amérique.
Washington, D.C.
Dans un contexte de raid des migrants illégaux à l'échelle nationale, une organisation communautaire à Chicago, dans l'Illinois, aide les sans-papiers qui craignent de quitter leur domicile et d'être arrêtés. Un reportage d'Henry Garcia Fuentes, récit d'Ilidico.
Marie-Lou et Jesus Vargas achètent et livrent des provisions à des immigrés sans papiers qui disent craindre d'être détenus par des agents de l'immigration. Ce jour-là, ils ont aidé une femme qui dit avoir été menacée sur son lieu de travail. Elle n'a pas souhaité montrer son visage ni donner son nom par crainte d'être expulsée. Pour protéger son anonymat, nous l'appellerons Maria. Écoutons-la.
Une femme est venue sur notre lieu de travail et a dit qu'elle allait faire appel à l'immigration contre nous tous. Cela fait maintenant 2 semaines que je n'ai pas quitté ma maison.
C'est pourquoi Maria s'est tournée vers Mijos. La famille Vargas a fondé cette organisation communautaire à but non lucratif pour venir en aide aux immigrants de Chicago. Mijos lui fournit du lait, des céréales, des haricots, des galettes de maïs et de la viande. Parfois, les personnes qu'ils aident peuvent les rembourser, mais le couple couvre la plupart des dépenses de sa propre poche. Marie-Lou Vargas est la cofondatrice de Mijos.
Nous apportons de l'espoir à ceux qui n'en ont pas. Nous nous efforçons d'aider ceux qui ont peur de faire leurs courses ou d'emmener leurs enfants à l'école en leur fournissant les services de base dont ils ont besoin pour survivre.
Le couple Vargas dit avoir aidé environ 25 familles depuis que le président Donald Trump est entré en fonction et a annoncé des expulsions à grande échelle. Ils disent faire ce qu'ils peuvent, mais reconnaissent que les besoins dépassent largement l'aide qu'ils sont en mesure de fournir. Jesus Vargas est le cofondateur de Mijos.
Certains bienfaiteurs nous envoient de petits dons, ce qui nous permet d'aller acheter des provisions pour ces familles. Nous avons nos propres emplois, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider notre communauté. Nous devons donner notre temps pour montrer notre solidarité avec ceux qui ont le plus besoin en ces temps difficiles.
Chicago est une ville dite sanctuaire. Les fonctionnaires ne posent pas de questions sur le statut d'immigration et ne divulguent pas ces informations à la plupart des autorités fédérales. C'est l'une des nombreuses villes américaines où l'administration Trump a mené des actions pour l'application des lois sur l'immigration. Écoutons Tom Oman, responsable de la politique frontalière.
Si vous êtes dans le pays illégalement, vous êtes sur la sellette parce qu'il n'est pas acceptable de violer les lois de ce pays. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous entrez illégalement dans ce pays, vous commettez un crime.
L'administration Trump affirme que plus de 11 000 immigrés sans papiers ont été arrêtés au cours des 2 premières semaines de son mandat. Pour les migrants comme Maria, la situation est terrifiante, mais elle est reconnaissante de l'aide apportée par Mijos. À nouveau Maria, une migrante sans papier.
Je me sens bénie par Dieu pour ces bonnes personnes. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude.
Malgré sa peur, Maria sait qu'un jour ou l'autre, elle devra sortir de sa maison.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.